Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Di Ulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, les forces du Sahel sont capables aujourd'hui de s'opposer aux groupes armés terroristes. C'est ce que pense le commandant de la force Barkhane en fin de mission, le général Marc Kontruit, est allé faire ses adieux au président du Faso. Après AstraZeneca, place à Johnson & Johnson, les États-Unis ont offert plus de 150 000 doses de ce vaccin au Burkina Faso. Il sera accessible aux plus de 18 ans, selon le ministre de la Santé. Hors de chez nous, deux Français arrêtés à Madagascar, selon la procureure générale auprès de la Cour d'appel qui s'est exprimée hier soir. Les deux hommes sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Et puis on parlera de la tentative d'assassinat du président de la transition au Mali avec notre invité du jour, Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali. Selon lui, il y a eu faille dans la sécurisation d'Assimi Goïta. Le général Marc Kontruit, commandant de la force anti-djihadiste Barkhane en fin de mission, est allé faire ses adieux hier au président du Faso Roch Kabore. Reçu en audience, le général a souligné les moments difficiles qui ont nécessité d'une solidarité sans faille entre les différentes forces conjointes du G5 Sahel. Il s'exprime au micro de Charles Da.
Sur la situation sécuritaire au Sahel, qu'il était tout à fait légitime et normal que je vienne lui dire au revoir et lui faire, entre guillemets, le compte-rendu de la fin de ma mission et de souligner la très grande coopération qui a existé entre la force Barkhane et les forces armées burkinabées. La plupart des opérations de Barkhane, elles ont été menées dans le cadre de ce que l'on appelle l'accompagnement au combat, c'est-à-dire qu'il y avait des unités de Barkhane, il y avait des unités sahéliennes, maliennes, nigériennes, tchadiennes, burkinabées ou forces conjointes du G5, qui ensemble conduisaient ces opérations. Et quand je dis ensemble, qui montraient comment l'intégration entre forces Barkhane et forces africaines était forte et a permis de produire des résultats sur les adversaires très importants.
Selon le général Marc Kontruit, commandant de la force anti-djihadiste Barkhane, les forces du Sahel sont capables aujourd'hui de s'opposer aux groupes armés terroristes. Lancé le 1er août 2014, Barkhane, qui mobilise aujourd'hui plus de 5000 militaires, s'achèvera au premier trimestre 2022. Le dispositif français sera recentré autour de la Task Force européenne Takuba avec un nombre réduit de soldats français. Et dans cette lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de solution militaire sans projet politique. C'est ce que pense Jean-Luc Mélenchon qui a animé hier à son 4e et dernier jour de visite au Burkina une conférence publique à l'université de Ouagadougou. Durant près d'une heure, le député français a exposé sur le thème « Y a-t-il un avenir en commun dans la francophonie ?» Les détails avec Bruno Bayala.
Dans son exposé, le président de la France insoumise a insisté sur l'importance de faire un très bon usage de la langue française. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de cette langue dont Thomas Sankara s'est servi pour marquer l'histoire du monde.
N'acceptez pas qu'un bien commun soit avili par ceux qui se le sont appropriés. La langue commune dont nous pouvons nous réclamer, celle qui nous met immédiatement en rapport les uns avec les autres, c'est un bien immense. Ne le méprisons pas. Utilisons-le. Retournons-le contre les maîtres. Au fond, j'appelle à cette définition que donnait de la langue commune Thomas Sankara. Nous autres insoumis, nous sommes devenus sankaristes parce que nous avons compris ce que nous disait Sankara. Il nous l'a dit dans notre langue.
Jean-Luc Mélenchon estime qu'il est inconcevable que tous les documents scientifiques soient toujours en anglais, malgré la compétence des grands scientifiques dans l'espace francophone. Et il propose donc la création d'une université de l'espace francophonie qui va former des techniciens qui seront à mesure de prévenir des maladies et autres pandémies.
Il n'est pas normal que tous nos scientifiques de la langue commune soient pour être appréciés, publiés en anglais. Nous n'avons pas de revue scientifique internationale dans la langue commune, alors que nous disposons amplement des moyens de le faire et d'y abonner gratuitement tous nos intellectuels, tous nos professeurs, tous nos chercheurs, parce que ce sont des sommes dérisoires. La langue commune scientifique et technique nous permettra de maintenir tous, je dis bien tous, comme un bien commun, un avantage, une profondeur stratégique qui nous appartiendra en commun.
Une conférence qui a été bien appréciée par les étudiants au regard du contenu de l'exposé.
Ça a été un événement très formidable. Je dirais que ça a été une conférence réussie. Nous avons appris beaucoup aussi de sa conférence. Je dirais que j'ai été marqué par le domaine de la sécurité.
Je trouvais que la conférence était un peu engagée. C'est une conférence qui a dénoncé certaines pratiques.
La question du sentiment anti-français a également été évoquée. Jean-Luc Mélenchon a invité la jeunesse burkinabé à ne pas perdre de vue que la France est diverse. Selon lui, il y a cette France qui n'a jamais accepté l'impérialisme, le colonialisme et le paternalisme.
Covid-19, après le vaccin britannique AstraZeneca, le Burkina a reçu hier le vaccin Johnson & Johnson, un don de l'État américain qui témoigne de la solidarité mondiale dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, compte rendu de Valérie Guéret et Elisabeth Yanogo.
C'est au total 151 200 doses de vaccin Johnson & Johnson que l'État américain a mis à la disposition du Burkina Faso dans la lutte contre la COVID-19, une donation qui facilitera l'ouverture des frontières terrestres. Charlemagne Ouédraogo, ministre de la Santé.
Avant cette ouverture, nous puissions atteindre un niveau très avancé de la vaccination pour éviter que cette ouverture des frontières ne soit encore une occasion de circulation du virus et surtout des variants qui commencent à monter dans d'autres pays et ça inquiète. Si vous regardez dans certains pays, vous suivez la presse, vous verrez qu'il y a une recrudescence de la maladie avec une prédominance importante des formes dites formes variantes.
Ce vaccin, de l'avis de Charlemagne Ouédraogo, ne remet pas en cause l'efficacité du vaccin AstraZeneca utilisé jusque-là au Burkina Faso.
Nous répétons que le vaccin AstraZeneca est un vaccin efficace qui est venu au Burkina Faso et le vaccin Johnson & Johnson vient renforcer aussi nos capacités. Il ne s'agit pas d'une compétition entre vaccins, il s'agit de renforcer nos capacités. Après Johnson & Johnson, nous allons recevoir Sinopharm, nous allons recevoir d'autres vaccins. Tout ce qui est vaccin homologué par l'OMS et qui peut venir renforcer notre capacité, nous allons les recevoir et les redéployer vers les populations.
Le vaccin Johnson & Johnson est ouvert à toute personne ayant au moins 18 ans. Au cours du mois de juillet, le Burkina a enregistré 18 cas confirmés, tous de transmission communautaire.
Et le ministre de la Santé qui assure que ces différents vaccins contribuent à barrer la voie aux nouveaux variants qui sévissent dans certains pays. Et puis à l'occasion de la fête de Tabaski 2021, Qatar Charity a fait don de viande de mouton d'une valeur de 90 millions de francs CFA, un don destiné aux populations vulnérables et aux victimes de la crise sécuritaire qui secoue le Burkina, le compte-rendu de Pierre Badolo.
Ce don est destiné aux couches vulnérables, les personnes déplacées internes, les orphelins et les cités universitaires. Essentiellement composé de viande de mouton pour vivre la fête de Tabaski. Idriss Diallo, représentant le directeur général de Qatar Charity.
J'ai dit à mon discours, d'abord les associations qui ont déposé leur demande au niveau de Qatar Charity. Deuxièmement, cité universitaire de Kosodo. Troisièmement, nos parrainés, les orphelins de Qatar Charity et les familles vulnérables. Et aussi les sites de Nagaringo sont des sites vulnérables.
C'est un don qui vient réjouir les couches défavorables en situation de rareté de ressources alimentaires due à la crise sécuritaire. Le ministère de la Famille et de l'Action humanitaire salue le geste qui est purement humanitaire. Yves Kabore, chargé des missions du ministère de la Famille et de l'Action humanitaire.
Un don de partage de viande aux personnes vulnérables qui seront d'une grande utilité pour ces familles, qui vont contribuer à améliorer leur alimentation pendant quelques jours. Dans ce contexte de rareté des ressources et des crises humanitaires, bon, ce genre d'activités ne peuvent qu'être bien salués parce que ça participe à accompagner les populations vulnérables dans leur propre prise en charge.
Ce don vient soulager le poids des dépenses de la fête chez les populations en situation défavorable et créer un effet d'espoir. Le geste est salué. La DGCOP en appelle à la pérennisation de cette action. Bourema Tao, représentant le directeur général de la DGCOP.
Une action vraiment qu'il faut encourager, surtout dans un contexte de crise alimentaire, de crise humanitaire. La DGCOP encourage toujours vraiment ces actes qui ne sont pas vraiment des premières actions.
Un don composé essentiellement de viande de mouton d'une valeur de 89 773 000 francs CFA, dont la distribution a commencé en ce jour de Tabaski et va se poursuivre jusqu'au 24 juillet dans les quatre coins du Burkina.
L'actualité internationale, deux Français ont été arrêtés mardi dernier à Madagascar, selon la procureure générale auprès de la cour d'appel qui s'est exprimée hier soir. Les deux hommes auraient été inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Les enquêteurs auraient les preuves matérielles que Paul Rafano Arana, un franco-malgache, et Philippe François, un Français, prévoyaient d'assassiner deux hôtes de hautes personnalités politiques, dont le président de la République, André Rajoelina. La procureure n'apporte pas plus de précisions sur l'arrestation ni sur ses preuves, pas plus que sur la procédure judiciaire en cours. Les deux prévenus étaient toujours placés en garde à vue mercredi soir avec leurs épouses. Au Mali, au lendemain de la tentative d'assassinat du président de la transition, le procureur de la commune 2 de Bamako a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais que sait-on de l'agresseur d'Assimi Goïta? Suivez la réponse de Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali.
Ce que disent les enquêteurs, c'est que hier, peu après la tentative, il était difficile de faire parler l'agresseur parce que il n'était pas en possession de tous ses sens. Il avait consommé des substances. Il était drogué, selon les enquêteurs. Donc, il a été difficile de l'interroger plusieurs heures après les faits. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'il y a d'autres interpellations. Le président lui-même a parlé de tentatives de déstabilisation. Mais est-ce que c'est une piste également djihadiste? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un règlement de compte à l'intérieur de l'armée? Il y a plusieurs hypothèses, mais ce qui est sûr, ça montre quand même la fragilité de la transition. Les militaires contrôlent-ils tout? Effectivement, on est quand même dans une mosquée. Pourquoi les services de renseignement, les services de sécurité n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher ce genre d'acte? L'agresseur a visé le président de transition au cou. Donc, visiblement, c'était pour faire du mal. Il y a eu un problème de sécurité, défaillance sécuritaire, ça c'est évident. Quand vous faites deux coups d'État en quelques semaines, vous n'avez pas forcément que des amis.
Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali, est notre invité du jour. L'intégralité de l'interview est à suivre en fin d'édition. Et puis en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, aura un tête-à-tête avec l'ancien président Laurent Gbagbo le 27 juillet prochain au palais de la présidence de la République à Abidjan, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue d'un conseil des ministres. Ce sera donc la première rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis la crise électorale de 2010-2011 qui avait causé la mort de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire, selon l'ONU. Il s'agira également de leur premier rendez-vous depuis le retour de l'opposant historique le mois dernier.
La revue de presse.
La revue de presse de ce jour est présentée par Bernabé Cabri.
L'arrivée du vaccin américain contre le COVID-19 et l'oral du député Jean-Luc Mélenchon à l'université de Ouagadougou sont commentés par les quotidiens du jour. Johnson & Johnson débarque au Burkina, titre l'Obs. Le ministère de la Santé reçoit 151 200 doses du vaccin Johnson & Johnson, poursuit le quotidien qui souligne, selon les mots du ministre de la Santé, que l'acquisition du vaccin Johnson & Johnson permettra au système sanitaire burkinabé d'élargir la cible vaccinale aux personnes âgées de plus de 18 ans. Après la lutte contre le coronavirus, la lutte contre le terrorisme au Sahel. À ce propos, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il n'existe aucune solution militaire à un problème politique, indique le pays. Titre repris par le quotidien. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est inconcevable que dans la lutte contre le terrorisme, la réflexion sur la provenance et le financement des terroristes n'a fait qu'une fois l'objet de discussion à l'Assemblée nationale française. De ce fait, il a appelé les différents gouvernants à repenser la guerre contre le terrorisme. Peut-on lire dans le journal. Sur le séjour du député français, qui a pris fin par une conférence publique à l'université, Joseph Kizerbo, le pays rappelle que c'est lui qui avait introduit la proposition de loi à l'Assemblée nationale française tendant à la création d'une commission d'enquête sur les circonstances de l'assassinat du président du Conseil national de la Révolution et a plusieurs fois exigé la déclassification des dossiers irrelatifs pour permettre de faire la lumière sur ce crime. C'est donc un fervent admirateur de Thomas Sankara qui est venu au pays des hommes intègres, ajoute le pays, qui croit que Mélenchon a marqué des points auprès des Africains, de la nouvelle génération et des Français d'origine africaine profondément anti-impérialistes. La francophonie est un instrument de l'impérialisme français. Ce n'est pas faux, reconnaît Jean-Luc Mélenchon, devant les étudiants burkinabés, ajoute aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Qu'est-ce qu'on sait sur le ou les agresseurs du président de la transition au Mali, Assimi Goïta, victime d'une tentative d'assassinat au couteau le jour de la Tabaski? Est-ce un acte monté de toutes pièces ou inattendu? Que risquent les coupables? Des questions auxquelles répond Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali. Il a été joint au téléphone hier au lendemain de l'attaque par Asma Odaou.
Serge Daniel, bonjour.
Bonjour.
Au lendemain de la tentative d'assassinat au couteau du président de la transition, Assimi Goïta, avez-vous des informations sur l'identité de l'agresseur et ses motivations?
Alors, on ne peut pas savoir parce que les enquêtes sont en cours. Ce que disent les enquêteurs, c'est que hier, peu après l'attentat, peu après la tentative, il était difficile de faire parler l'agresseur parce qu'il était, pas en possession de tous ses sens. Il avait consommé des substances, il était... drogué, selon les enquêteurs. Donc, il a été difficile de l'interroger après les faits, plusieurs heures après les faits. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'il y a d'autres interpellations. On n'en sait pas un peu plus pour le moment.
Face à un tel acte, plusieurs hypothèses en vue. Soit le président était au courant et c'est une manœuvre politique, soit il n'en savait rien, effectivement. Quelle est la plus plausible, selon vous, des deux hypothèses?
Écoutez, moi, je ne me fie des hypothèses. Est-ce que le président était au courant? Je ne le crois pas, mais les enquêtes vont le démontrer. Parmi les hypothèses, il y a plusieurs hypothèses. Le président lui-même a parlé de tentatives de déstabilisation. Il a dit, vous savez, quand vous êtes leader, il y a toujours des gens qui veulent déstabiliser. Il a ensuite dit que c'était un acte isolé. Les enquêtes doivent pouvoir le prouver ou pas. Mais est-ce que c'est une piste également djihadiste? Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un règlement de compte à l'intérieur de l'armée? Il y a plusieurs hypothèses, mais voyez-vous qu'en tant que les enquêtes ne sont pas terminées, on ne peut pas faire de déduction.
Alors, selon certains médias au Burkina Faso, cette tentative est la preuve que Assimi Goïta n'est pas aussi populaire qu'il le pense, qu'il n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs et qu'il ne doit pas oublier que la priorité du Mali est et demeure la sécurité. Quels commentaires avez-vous à faire à ce propos?
C'est un peu hasardeux de dire cela. Moi, je suis pas un pro Assimi, je suis pas un anti. Mais vous savez, puisque vous êtes au Burkina, lorsque Thomas Sankara a été victime d'un attentat, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas populaire? Non, on peut pas dire cela. C'est trop. Il faut pas aller vite en besogne. Je disais tout à l'heure que il y a plusieurs hypothèses. On attend la fin des enquêtes. Mais ce qui est sûr, ça montre quand même la fragilité de la transition. Les militaires contrôlent. C'est-il tout, effectivement? On est quand même dans une mosquée. Pourquoi les services de renseignement, les services de sécurité n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher ce genre d'acte? On peut se poser la question, surtout que l'homme qui était l'agresseur a visé le président de transition au cou. Donc, visiblement, c'était pour faire du mal. Il y a eu un problème de sécurité, défaillance sécuritaire, ça c'est évident, puisque quelqu'un a pu s'introduire au sein de la mosquée, la grande mosquée, jour de prière, jour de tabaski, et qui a tenté d'agresser le président.
Mais Serge Daniel, qui peut vouloir la peau du président de la transition au Mali?
Moi, je ne sais pas jouer dans les coris, madame. Peut-être vous savez jouer dans les coris. Les enquêtes sont en cours, comme je vous ai dit. Ils sont pas... quand vous faites deux coups d'État en quelques semaines, vous n'avez pas forcément que des amis, madame.
Est-ce que dans l'histoire du Mali, c'est déjà arrivé quand on essaie de tuer un président?
À ma connaissance, non. On a arrêté Modibo Keïta alors qu'il revenait d'un voyage. Il y a eu le coup d'État parce qu'on a arrêté. On a arrêté d'autres présidents comme ça. Ibeka, vous savez, ils ont été arrêtés, mais ils n'avaient pas été assassinés puisqu'ils vivent toujours. À ma connaissance, non, c'est plutôt quelque chose de très rare. Moussa Traoré, en mars 91, le président, il n'avait pas été tué, il avait été plutôt également arrêté.
Que risque le ou les coupables? C'est quand même un président qui a été attaqué au couteau.
Il y a une enquête qui a été ouverte. Le tribunal de la commune 2 de Bamako a affirmé que il y avait une enquête qui était ouverte et que ça s'apparentait à une atteinte à la sûreté de l'État, ça s'apparente à une tentative d'assassinat. Ici, la tentative d'assassinat, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est quand même une peine, une perte lourde, au moins 20 ans de prison, selon les lois maliennes, madame.
Serge Daniel, merci.
C'est à moi.
C'était l'invité de la rédaction.
Serge Daniel, journaliste et analyste politique au Mali, répondait aux questions d'Asma Odao. Fin de ce journal réalisé par Edwige Tienrebego. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.
Radio Omega, l'info en direct.